CS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Journal des sports, et on commence avec eh bien, du football en France et le point sur la journée de championnat du week-end dernier.
Troisième victoire consécutive pour l'OM qui, après Cognac-Sport et Amiens, s'est payé le scalp de Toulouse. Ce soir au Vélodrome, succès 2-0 avec des buts de Thauvin et Ocampos. Du coup, Marseille grimpe à la 5e place du classement et se redonne du moral. La satisfaction du défenseur Adil Rami.
C'est vrai que ça fait plaisir. Là, depuis quelques temps, on arrive à retrouver les chemins des filets, on gagne et on n'avait pas trop la manière. Et aujourd'hui, avec le temps, voilà, il fallait commencer par être plus défensif. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et maintenant, avec un peu plus de confiance, on arrive à dérouler un peu plus de jeu, de football. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a vécu un moment difficile. Il faut s'en servir pour continuer sur cette lancée. Mais le plus difficile reste à venir maintenant.
À noter que le stade Vélodrome a arboré avant le match des banderoles de soutien à Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, actuellement hospitalisé pour un cancer à l'estomac.
Et puis, Eric, en début d'après-midi, à votre grande dame, Saint-Etienne avait perdu sa place sur le podium.
La faute à un match nul à domicile contre Rennes, deux buts partout. Les Verts menaient deux fois au score suite à des buts de Bourigeaud et Cazeri ont su à chaque fois revenir. Gabriel Silva et Bamba ont ainsi marqué pour décrocher finalement un point qui ne contente pas le milieu de terrain d'origine burkinabé de Saint-Etienne, Brian Dabo.
C'est un point amer parce qu'on est à domicile. Après, on a beaucoup souffert en première mi-temps. C'était un système un peu nouveau, donc ils nous ont dominé clairement la première mi-temps. Ils étaient meilleurs dans les intentions, dans les duels physiques, dans la vitesse de jeu, dans la qualité de passe, dans à peu près tout. C'est une déception, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe, parce que si on arrive à retrouver le niveau de jeu qu'on a eu ces derniers temps, on va vite remonter, mais c'est pas quelque chose qui... Je suis pas focalisé là-dessus. Moi, ce qui me préoccupe, c'est plus de gagner les matchs plutôt que de dire on est troisième, on est deuxième, c'est anecdotique.
Brian Dabo, les Verts désormais quatrième à une longueur de Bordeaux, les Verts talonnés à un point par Marseille et Nantes.
Nantes, les Canaries, vainqueurs à Strasbourg, 2-1 en fin d'après-midi. Da Costa avait pourtant ouvert le score pour les Alsaciens, mais Thomasson puis Dubois ont vite répliqué. Et même s'ils ont beaucoup subi par la suite, les Nantais ont su tenir pour décrocher leur 5e match sans défaite. Les Nantais se retrouvent donc 5e ex aequo avec Marseille. Quant aux Strasbourgeois, ils restent avant-dernier derrière Lille et devant Metz.
On continue dans ce journal des sports de parler football et du marché des transferts. Et les chiffres mirobolants.
Le marché des transferts dans le football a battu tous les records. 400 millions dépensés par le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Neymar et de Mbappé. Barcelone n'est pas en reste. 105 millions d'euros dépensés pour le sol Ousmane Dembélé, qui à peine arrivé d'ailleurs s'est blessé pour plusieurs mois. S'il a permis au Borussia Dortmund d'arrondir son compte en banque, Ousmane Dembélé a aussi fait le bonheur financier de ses clubs formateurs. Et ceci en raison de la règle dite de contribution. Tom Rossi.
C'est une règle instaurée par la FIFA il y a 16 ans, mais ses effets sont de plus en plus visibles avec la flambée des prix des transferts. La contribution solidarité permet aux clubs formateurs de recevoir eux aussi de l'argent quand un de leurs anciens joueurs est transféré. Ils se répartissent 5% du montant du transfert, mais seules les années de formation entre 12 et 23 ans comptent. Grâce à ce mécanisme, le club amateur d'Evreux en Normandie va toucher une belle somme. C'est là-bas qu'Ousmane Dembélé a commencé à jouer au foot avant de partir à Rennes à 13 ans et d'être transféré à Dortmund, puis au FC Barcelone pour 105 millions d'euros. Le club normand devrait empocher environ 260 000 euros, c'est près de la moitié de son budget annuel. Cet été, dans le monde, il y a eu 7 590 transferts pour un montant total de 4 milliards d'euros.
Tom Rossi sur RFI. On parle maintenant de cyclisme et de cette superbe victoire. Vous l'avez sûrement vu sur SBS. Superbe victoire de Peter Sagan. Troisième fois consécutivement sacré champion du monde. C'était à Bergen en Norvège. Il a fait ça de main de maître, comme nous l'explique Jean-Luc Gatelier, journaliste à l'équipe.
Une victoire attendue, logique, oui, parce que c'est lui le plus fort. Il a une force bestiale qui fait qu'il peut se permettre de gagner une course sans équipier, en profitant certes du travail des autres, mais c'est logique, il n'avait pas d'équipe. Il a même eu un comportement qui a pu surprendre certains coureurs, mais il est assez coutumier du fait. Il semblait se désintéresser de la course. Il était à l'arrière ou au milieu du peloton, il chambrait entre guillemets certains coureurs gentiment. C'était une attitude assez incroyable, hein, complètement désinvolte pendant une grande partie de cette course. Et puis à deux tours de l'arrivée, on l'a vu pas très loin de la tête, à un tour il était là. Sans le garantie évidemment, puisqu'il lui fallait absolument tirer une seule cartouche, c'était celle du sprint. pour l'emporter. Et ça s'est passé de manière incroyable à nouveau pour lui, parce que Christophe pensait pouvoir l'emporter. Et finalement, il a été dépassé au dernier moment de justesse par le Slovaque.
Jean-Luc Gatelier est donc joint par nos confrères de RFI. Et un mot de rugby pour finir ce journal des sports, et on parle de la Coupe du Monde. Les trois grandes villes prétendantes à organiser la prochaine Coupe du Monde et se réunissaient à Londres ce lundi. Reportage Hugo Moissonnier.
C'est la dernière ligne droite. La France, l'Irlande et l'Afrique du Sud ont présenté leurs trois candidatures très impressionnantes. Selon les mots du président de la Fédération internationale, l'Afrique du Sud, comme la France d'ailleurs, a déjà accueilli une Coupe du Monde. En 1995, les Springboks avaient soulevé le trophée à la fin par l'intermédiaire de leur capitaine de l'époque, François Pinard. Alors vous vous souvenez peut-être, hein, Matt Damon, l'acteur américain, jouait son rôle dans le film Invictus de Clint Eastwood avec Morgan Freeman dans le rôle de Nelson Mandela également. François Pinard, il soutient activement la candidature de son pays pour 2023 et il était présent ce lundi à Londres.
Je suis très impressionné et fier car notre candidature est percutante. Les trois pays remplissent les critères, mais nous avons des atouts à faire valoir, notamment sur le plan financier. Nous nous engageons également à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Nous prendrons soin d'eux grâce à nos infrastructures. Concernant les stades, nous avons déjà ce qu'il faut avec les enceintes de la Coupe du Monde 2010. Nous n'allons pas en construire d'autres. Il faudra juste les améliorer et améliorer les pelouses. Nous avons déjà tout budgété. Nous voulons également montrer que notre pays peut être une belle destination touristique. Enfin, je pense que l'Afrique du Sud est quand même une destination particulière lorsqu'on parle de rugby.
François Pinard au micro d'Olivier Sclaveau, le vice-président du pays ainsi que le ministre des Sports sud-africain est également à Londres ce lundi pour défendre donc la candidature de l'Afrique du Sud, candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. Le pays hôte de cette compétition sera désigné le 15 novembre.
Hugo Moissonnier, voilà, ça conclut ce journal des sports pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.